Face à l'info sur la première.
Et dans Face à l'info, on va parler de l'avenir de l'Union européenne à l'occasion des 60 ans du traité de Rome avec quatre invités, Eddie Kachelberg, deux d'entre eux ont chacun écrit un ouvrage avec des visées très différentes pour l'Union européenne. C'est à vous.
Il faut dépasser les festivités pour se poser une série de questions. C'est ce que font une série de livres. J'en tiens deux entre les mains. La double démocratie, une Europe politique pour la croissance, signée par Michel Aglietta et Nicolas Leron au Seuil. Et La fin de l'Union européenne, signée chez Michelon par Coralie Delhomme et David Kella. Les quatre sont avec nous. Ils s'entendront peut-être sur un certain nombre de points, pas sur d'autres. C'est un peu à l'image aussi d'un destin européen à la croisée des chemins dont on ne sait pas très bien gager aujourd'hui vers quoi il se dirige. Merci à eux quatre en tout cas d'avoir accepté d'être avec nous dans cette émission.
Soir première,
Face à l'info.
Bonsoir Michel Aglietta.
Bonsoir.
Alors, la double démocratie, cette Europe politique pour la croissance, commence par votre déclaration conjointe avec votre binôme Nicolas Leron. Nous avons un besoin absolu d'Europe. Est-ce que vous pensez que tous les Européens, pour l'instant, sont sur cette longueur d'onde ?
Ben non, les populations ne le sont pas. Ils ne l'étaient pas non plus pour faire la monnaie unique avant que la monnaie unique soit faite. C'est le rôle des politiques d'aller au-delà de l'opinion publique. Ça a toujours été comme ça qu'on a pu faire des réformes. Hein. Le danger, c'est qu'il y a des difficultés à le voir aujourd'hui. Enfin, on peut espérer quand même que le changement en Allemagne, s'il a lieu, va faire bouger les choses. On a besoin de repenser aujourd'hui pour aller plus loin et savoir sur quel domaine aujourd'hui on a besoin d'aller plus loin.
Vous n'éludez évidemment pas la question de l'élection de Donald Trump qui tente, en tout cas dans le discours, de diviser ou d'affaiblir l'Europe. Certains disent ça va forcer le sursaut européen, d'autres disent au contraire ça va renforcer les nationalismes et les forces centrifuges. Michel Aglietta.
On est dans une évolution du monde d'ailleurs. C'est la fin d'une période d'hégémonie américaine créant une certaine stabilité des relations internationales pour l'ensemble des pays qui étaient sous le parapluie américain. Ce monde a disparu, à la fois par la montée en puissance des grands États continentaux du reste du monde, par la prépondérance de l'Asie qui va s'affirmer au cours de la décennie qui vient. Et les pays intérieurs à l'Europe n'existent pas, si vous voulez. S'ils ne constituent pas une unité politique suffisante, ils n'ont plus aucun poids dans l'économie mondiale. Et il suffit en effet que vous ayez un mercantilisme qui se développe au niveau de la plus grande puissance du monde pour qu'on soit fortement menacé. Il y aurait un appauvrissement de l'Europe très considérable si nous ne sommes pas une puissance capable d'exister au niveau intercontinental.
David Kella, bonsoir. Vous êtes économiste à l'Université d'Angers, membre du collectif qu'on appelle les économistes atterrés. L'Union européenne est morte, je cite notamment, de l'échec spectaculaire, dites-vous, de son modèle économique, du marché unique et de l'euro, et de son inaptitude à régler les crises autrement que par des oukases brutaux.
Oui, il est clair que l'Europe n'a pas besoin de Trump pour se diviser. Alors oui, moi je crois en l'Europe, nous croyons avec Coralie Delhomme que l'Europe, ou en tout cas les pays européens, ont beaucoup de choses à faire ensemble. Là où je suis beaucoup plus sceptique, c'est sur l'avenir justement de l'Union européenne, puisque ce qu'on démontre dans votre livre, c'est que le modèle économique de l'Union européenne, en fait, suscite des divisions, suscite des divergences économiques. La question, c'est est-ce qu'on peut dépasser ce problème ? Ce que nous voyons, c'est que pour l'instant, on n'y arrive pas. L'Europe puissance dont parle Aglietta, en réalité, aujourd'hui, c'est de l'Europe de la puissance. Si on a des intérêts divergents entre les pays, on n'arrivera pas à se mettre d'accord, puisque l'Union européenne fonctionne quand même selon un principe dans lequel, à chaque fois qu'on veut avancer dans la fédéralisation ou dans l'intégration, il faut l'accord unanime de tous les pays. Alors là, pour l'instant, il n'y a aucun accord qui est sur la table.
Nicolas Leron, bonsoir.
Bonsoir.
Vous parlez avec Michel Aglietta dans ce livre de l'entropie du système politique européen, en parlant notamment d'un ordre juridico-politique sans vie politique ni politique publique. En n'ayant pas ces politiques publiques, en n'ayant pas de politique industrielle commune, en n'ayant pas de véritable politique fiscale commune, en n'ayant pas de politique étrangère marquante commune, est-ce que l'Union européenne n'est pas un mirage ?
Non, elle existe bel et bien. Et d'ailleurs, on en voit les effets, surtout quand on est citoyen d'un État membre sous plan d'aide.
Pensez à la Grèce,
par exemple. Sont bien la réalité de l'Union européenne, et notamment de son droit. Oui, le problème, c'est un problème d'impuissance de l'ensemble du système européen. Pourquoi impuissance ? Parce que d'un côté, on a des États membres qui voient en fait leurs pouvoirs budgétaires nationaux de plus en plus contraints par l'Union européenne, ou par le droit du marché intérieur, par les règles budgétaires européennes. Et quand on touche, quand on réduit les pouvoirs budgétaires des parlements, on touche au cœur même de la démocratie. Vous savez, démocratie, c'est démos, mais c'est aussi et surtout Kratos. Kratos, c'est le pouvoir de faire, c'est au fond la puissance publique. Et la chair de la puissance publique, c'est le budget. Et ce que l'on perd au niveau des États membres, du fait de l'Union européenne, en fait, on ne le regagne pas au niveau de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que le budget est ridiculement faible. On a un budget technique de 1%. On a une forme de perte du Kratos, d'impuissance publique, effectivement. Donc ça, on est d'accord sur le constat. Mais justement, nous, on propose non pas de faire un saut fédéral, un saut de souveraineté, mais de faire un saut de puissance publique et qui passe par un saut budgétaire. Si on a pu faire de tels sauts avec la monnaie ou avec la création du marché commun, on devrait pouvoir le faire pour le budget.
Coralie Delhomme, bonsoir.
Bonsoir.
Lorsque on ouvre votre livre, on tombe effectivement sur ce deuxième chapitre, le martyr grec et les leçons de l'échec de Syriza. Parmi ces leçons à tirer, elles sont cruelles, c'est que l'on ne peut pas, du point de vue d'Athènes, compter sur l'Europe.
Non seulement on ne peut pas, mais en plus de ça, l'Union européenne institutionnelle a joué contre Athènes et contre le gouvernement Syriza en 2015. L'Eurogroupe, la Banque Centrale Européenne se sont beaucoup mobilisés pour mettre en échec toutes les tentatives de Tsipras de sortir de l'austérité. Avec bien sûr un certain nombre d'États membres à la manœuvre également, qui n'avaient pas du tout intérêt à ce que Tsipras réussisse son pari. Le gouvernement grec a dû capituler. Et ce faisant, nous estimons qu'il a administré la preuve qu'on ne peut pas réformer l'Union européenne de l'intérieur de la manière dont elle est conçue. Parce que vous posiez la question tout à l'heure de savoir si on avait besoin d'Europe. Et je voudrais quand même préciser que l'Europe et l'Union européenne, ça n'est pas tout à fait la même chose. L'Europe, c'est un continent avec un certain nombre de pays. L'Union européenne, c'est un édifice institutionnel, c'est un cadre juridique. Donc la fin de l'Union européenne, ça ne veut pas dire l'implosion du continent. Il faut dédramatiser cette question.
Vous voyez la fin de l'Union européenne, vous la signez. C'est le titre de votre livre.
Oui. Si vous voulez, à partir du moment où ce sont des règles, essentiellement des règles juridiques, et à partir du moment où elles sont de plus en plus souvent inappliquées parce qu'inadéquates, et même pour certaines d'entre elles dangereuses, de fait, l'édifice se détricote. Petit à petit, il se détricote. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce à quoi on assiste. Le Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne, c'est un début de détricotage.
Michel Aglietta, ça vous choque comme approche? Vous parlez, cela dit, avec Nicolas Laurent dans votre livre, de dissipation de légitimité démocratique, de difficulté de coopération, pour ne pas dire d'absence de coopération possible entre États. Ce n'est pas un constat forcément plus enthousiasmant que vous faites.
Non, absolument pas. Non, mais ça ne veut pas dire que rien ne peut bouger. C'est absurde de penser ça. À partir du moment où on arrive à identifier les problèmes, et où, comme on le voit aujourd'hui, il y a quand même énormément de discussions et de réflexions nouvelles qui se sont au niveau européen, que ce soit du côté du Parlement ou du côté de la Commission, on voit les pistes sortir. La question, c'est probablement qu'il faut penser, comme le dit Juncker récemment, là, dans quelque chose qui soit un système à plusieurs pôles, plusieurs centres, quoi. C'est-à-dire que l'Europe ne repartira sur une réflexion de fond que lorsqu'il y aura probablement entre la France et l'Allemagne et peut-être, enfin les pays fondateurs, si vous voulez, une réflexion qui les amènera à mettre en place, comme ils l'ont fait dans le passé à chaque fois qu'il y a eu une crise grave. Il y a eu des crises très très graves, hein, plus importantes que celles qui sont aujourd'hui, hein. Et bien à chaque fois on les a surmontées. Donc il faut en effet qu'un groupe de pays se mette d'accord pour décider d'une avance budgétaire dans un cadre qui permettra de sortir, enfin disons de réduire la polarisation qui existe aujourd'hui. Les évolutions, en plus les pays évoluent, c'est-à-dire que l'Allemagne n'est plus du tout dans les conditions où les inégalités très fortes de balance courante se sont produites, elles ne vont pas continuer. Il ne faut pas continuer parce que le reste du monde, disons, ne permet plus à l'Allemagne d'exporter autant qu'il faisait, que la hausse des salaires en Allemagne va permettre, disons, de réaliser ce qu'on veut, c'est-à-dire une augmentation du taux de change réel de l'Allemagne, que les problèmes d'inégalité qu'ils ont posent des problèmes politiques qu'ils vont être amenés à résoudre. Et un changement politique en Allemagne peut être évidemment extrêmement favorable pour ce jeu-là. Et donc l'Europe va repartir probablement sur une base plus réduite en ce qui concerne l'avancée budgétaire, mais ouverte, qui permettra d'attirer les autres. Enfin, je veux dire, pour ce qui est du noyau zone euro, hein. Ça ne veut pas dire que toute l'Union européenne va fonctionner avec une avancée budgétaire commune.
Vous pensez que ce noyau euro resterait stable, cela dit, en termes de membres, de membership, Michel Aglietta?
C'est-à-dire que s'il ne restait pas, pour nous en France, ça nous poserait de sérieux problèmes. Hein. Nous avons fait un travail justement sur cette histoire de sortie de la zone euro. Les gens croient que quand on sort de la zone euro, la France sera plus compétitive. C'est pas vrai du tout. Je veux dire, la sortie de la zone euro est une remise en cause des taux de change de tout le monde. Et il serait absurde de penser que la France pourrait dévaluer et que l'Italie ne dévaluerait pas plus que la France, vu la situation dans laquelle elle est. Alors, quand on regarde les choses, la France s'apprécierait par rapport à la plupart des pays. Si elle voulait sortir, par exemple, de la zone euro, si elle voulait bouler son taux de change, elle perdrait en compétitivité par rapport à la fois à l'agriculture et dans le secteur manufacturier. Elle gagnerait dans la plupart des services, notamment dans le tourisme. Ça ne nous ferait pas une solution au problème que nous rencontrons de manque de croissance et de manque d'investissement, pas du tout.
On se retrouve dans un instant, deuxième partie d'émission, pour aller plus loin.
Soir première,
Face à l'info.
Et dans Face à l'info, on aborde l'avenir de l'Union européenne avec deux visions qui s'opposent totalement, Eddy.
Je reprends avec vous, Nicolas Laurent. Étonnant chapitre qui pourrait évidemment contraster avec une vocation à enthousiasmer les foules lorsque vous dites le budget européen, fondement de la démocratie européenne. Je vais le dire un peu platement, c'est pas sexy, les foules, le budget européen, ils n'en voient pas ni l'augure ni le résultat.
Oui, non, c'est pas très sexy, non.
Pas.
Peut-être sur le principe tel que on le pose, surtout si on le pose comme le budget comme un instrument de stabilisation macroéconomique, ce qu'il est. Mais il est aussi l'élément constitutif d'une société. En fait, le budget, c'est la chair de la démocratie. C'est ce qui permet en fait à juste vivre la politique. C'est ce qui permet en fait à une communauté politique d'exister parce qu'elle va se donner des richesses communes pour produire des biens communs. Oui. Donc, on peut parler de budget, c'est technique. On peut parler de richesse commune et de production de biens communs. Là, peut-être déjà, ça parle un peu plus.
En fait, ce budget permettrait en quelque sorte de donner de la substance, hein, ça on comprend, à l'Europe, à l'Union européenne. Pour vous, l'Union en tant que telle doit subsister, l'institution Union européenne doit subsister, muter, se développer, mais en tout cas rester.
C'est pas simplement se développer. Nous, ce qu'on dit, c'est la méthode des petits pas, c'est fini. Ça a été sans doute le coup de génie des débuts de l'intégration européenne. Mais aujourd'hui, parce que justement on analyse cette entropie, cette dynamique entropique du système, que la crise, en fait, elle naît pour partie de la structure même du système actuel. Donc il faut opérer un bouger conséquent dans l'architecture de l'Union européenne. Il faut faire un saut, que ce soit le repli vers le Brexit ou la sortie, de, par exemple, de la France de l'Union européenne, ou le grand saut fédéral. Ce sont les deux faces de la même pièce. C'est l'obsession de la souveraineté. C'est croire que, par exemple, le Royaume-Uni va retrouver sa pleine puissance souveraine. C'est faux. C'est faux. C'est une illusion. En revanche, il faut faire un saut. Donc nous, on veut découpler la question de la démocratie de celle de la souveraineté. Démocratie, ce n'est pas forcément souveraineté. Démocratie, c'est autre chose. Démocratie, c'est au fond ce que l'on fait en commun. Voilà.
Coralie Delhomme, dans La fin de l'Union européenne que vous signez, donc co-signez avec David Kayla, et je me retourne vers lui dans un instant aussi, vous prévoyez en chapitre final de rompre, je cite, avec l'Europe allemande et sortir de la logique d'affrontement. Vous dites, l'Allemagne va d'ailleurs, à raison de la crise, devoir progressivement sortir de son modèle économique actuel et larguer les amarres.
C'est pas tout à fait impossible, ça dépend quel deal on est susceptible de lui proposer. En fait, pour l'instant, les Allemands, ils sont encore dans une situation qui leur convient parce que ils ont, grâce à l'existence du marché unique, ils dégagent des excédents commerciaux qui leur conviennent très bien, dont ils ont besoin pour faire face plus tard au vieillissement de leur population, qui est pour eux un gros problème. Ils bénéficient de l'euro, qui est pour eux, et Angela Merkel l'a reconnu récemment d'ailleurs, une monnaie sous-évaluée, donc qui les rend d'autant plus compétitifs. Grâce à la libre circulation des personnes et à l'élargissement des années 2004-2007, ils bénéficient de possibilités d'utiliser la main-d'œuvre très peu chère d'Europe de l'Est. Donc finalement, ils sont au centre d'un jeu qui leur convient assez bien. Maintenant, il y a peut-être un moment où l'affaire va se retourner, et on l'a senti un petit peu au moment de la crise grecque, c'est-à-dire que les Allemands sont aujourd'hui créanciers, mais la France l'est aussi, l'Italie l'est aussi, on l'est tous en fait, mais ils sont créanciers de pays qui vont être de moins en moins solvables en Europe du Sud. Et lorsque ces pays vont commencer à faire défaut, si ça arrive, et pour la Grèce, il est vraisemblable que ça arrivera, le FMI l'a dit à plusieurs reprises, la dette grecque n'est pas soutenable. Donc là, tous les pays prêteurs vont se retrouver à perdre des sommes conséquentes.
David Kayla, si je vous ai bien lu l'une et l'un, Il y a cette appellation classique de Allemagne ou axe franco-allemand moteur de l'Europe, mais d'une Allemagne en tout cas moteur et banquier de l'Europe. Vous dites aussi une Allemagne qui est peu fidèle à l'Europe parce qu'elle privilégierait dans son mercantilisme, en gros, dites-vous, la Chine par exemple et le client américain au lieu de l'italien ou du français. Donc elle n'aurait pas une loyauté européenne.
Oui, alors en fait, ce qu'on a dit à ce propos, c'était que lors de la crise de la zone euro, on a vu un affaiblissement de la demande dans les pays d'Europe du Sud, et donc tout le monde pensait, on va être obligé d'être solidaire, puisque les principaux débouchés allemands, c'est justement les débouchés européens. Or, ce qui s'est passé à l'issue de cette crise, c'est que en fait, l'Allemagne, elle a trouvé des débouchés ailleurs. Et en réalité, ce qu'on constate quand même, c'est, l'Union européenne, les politiques économiques, c'est pas juste un problème budgétaire. C'est aussi un problème industriel, c'est aussi un problème de politique commerciale, c'est aussi un problème de politique monétaire. Et donc, le souci,